C'est assez inquiétant. Il y a le nombre de ménages sans logement qui est 5 fois plus élevé à Montréal que l'an passé. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver à la rue en août. Il y en a déjà qui sont là depuis le mois de juillet. Est-ce que ça vous inquiète pour me parler? Vous pouvez toujours m'appeler au 514-790-9850 ou si vous êtes à l'extérieur de la ville de Montréal, le 1-866-790-9850. Et tout de suite, on va parler avec Véronique Laflamme, qui est porte-parole du Front d'Action Populaire en réaménagement urbain. Bonjour, Madame Laflamme.
Bonjour.
Ça me paraît très inquiétant. Là, il vient de me passer par la tête tout d'un coup. Oui, s'il y a une deuxième vague en plus, là.
Oui, c'est très inquiétant. En fait, on n'a jamais vu ça au Frappru. Autant de ménages locataires, toujours sans logement permanent, un mois après le 1er juillet. C'est sûr que la pandémie a joué un rôle parce qu'on voit que, contrairement à ce qu'on voit de l'habitude, il y a continué à avoir des demandes d'aide après le 1er juillet. D'ailleurs, depuis le 13 juillet à Montréal, 90 nouvelles demandes d'aide, alors que l'année passée, c'était même pas 8. Donc, on voit que la situation s'étire. C'est en lien avec la pandémie, oui, parce que certains locataires ont pu prolonger leur bail de quelques semaines. S'il y a une deuxième vague, on verra comment s'organiseront les gens qui seront sans logement. Mais ça a aussi beaucoup à voir avec la crise du logement dont on parle depuis des mois au Frappru, sur lequel on essaie d'attirer l'attention du gouvernement québécois. Cette crise-là, on voit qu'elle risque là, de s'ancrer à Montréal si on n'agit pas rapidement, oui. Parce que c'est effarant. La situation est effarante, il faut se le dire, qu'autant de ménages locataires, des personnes seules, des couples, des familles, mais pas de logement et soient hébergés chez des amis ou à l'hôtel pendant des semaines. Ce n'est pas acceptable. Et déjà, dans certaines villes, en fait, dans une ville au Québec, Gatineau, c'est une situation qui se voit à l'année longue, des familles qui sont en motel depuis des semaines. Et si on ne veut pas que ça se généralise, il faut agir rapidement. Et là, ce chiffre-là, au 2 août, là, devrait alerter le gouvernement s'il ne l'a pas été avec des situations dramatiques qu'on a pu voir et dont on a pu entendre parler dans les derniers mois, notamment à Montréal, mais dans les autres grandes ville. Non seulement de gens qui n'arrivent plus à payer le loyer, mais de gens qui sont victimes de toutes sortes de stratagèmes pour se débarrasser des locataires les moins payants, alors que l'immobilier est une business sur lequel il y a beaucoup d'argent à faire et que ce business, finalement, chasse les locataires les moins payants. Là. Alors, on espère vraiment que ce chiffre-là, qui est inédit, là, va faire en sorte que les gouvernements supérieurs se réveillent et passent à l'action.
La mairesse Plante a demandé 5 millions à Québec pour aider, mais jusqu'à date, il y a l'air d'avoir 1,2 million, tout juste.
Oui.
Mais c'est pas
Exactement.
Suffisant.
Bien, la ville a demandé davantage et la réponse du gouvernement du Québec, ça a été de réannoncer le programme de l'année passée. Programme qui avait été annoncé l'année passée quelques jours avant le 1er juillet, hein, le 1er juin. Le 26 juin, donc quelques jours avant le 1er juillet, Québec avait annoncé un programme d'aide qui était celui-là qui avait été utilisé au début des années 2000. C'est ce programme-là qui avait été mis en place là après les premiers juillet difficiles du début des années 2000, qui rembourse une partie des dépenses aux municipalités. Mais 1,2 million sur 5 millions demandés, on voit bien que ça ne répond pas à tout. Et pour les villes comme Montréal, qui est celle qui doit faire face au plus grand nombre de ménages sans logis, c'est vraiment pas suffisant. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Montréal devra prendre des fonds ailleurs dans son budget pour financer l'opération d'hébergement, d'aide, etc. Et nous, on pense que si on veut que les villes puissent aider adéquatement la population qui a besoin d'aide, bien, il faut lui donner les moyens. Et ça, le gouvernement du Québec ne le fait pas actuellement. D'ailleurs, il y a plusieurs villes où le taux d'inoccupation est sous le seuil de 3 % mais pas en bas de 2 % qui n'ont même pas accès à ce programme-là. Je pense à Québec et Sherbrooke, où il y a pourtant eu beaucoup de ménages locataires en difficulté cette année. À Sherbrooke, il y en a eu 42 et ça a pris un mois pour les reloger. Et cette municipalité-là n'a même pas accès au remboursement des dépenses mis en place par le gouvernement du Québec. Donc, on voit bien que c'est insuffisant. Ça l'est pour Montréal, mais ça l'est aussi pour d'autres villes.
Ah oui, c'est 1,2 million, pas suffisant. 0 est clairement pas suffisant. Moi, j'habite dans la Lanaudière et quand j'ai acheté il y a quelques années, il y avait 12 acheteurs pour un vendeur. Fait que tu pouvais négocier, tu sais. Là, en ce moment, il y a de la surenchère et tout le monde vend de leur maison à toute vitesse. Est-ce que vous croyez que c'est dû beaucoup à l'exode de plusieurs Montréalais vers ben, entre autres, là, ce coup-ci, la Naudière, mais vers l'extérieur de Montréal? Et croyez-vous que c'est aussi à cause du prix des loyers?
Ben, il y a différents facteurs. C'est sûr que là, toute la question de la spéculation immobilière puis de l'étalement urbain, c'est un gros débat. Une chose est sûre, il y a une crise du logement dans la Naudière. Il y a une crise du logement dans la Couronne-Nord, mais aussi dans la Couronne-Sud de Montréal. Dans la Naudière, d'ailleurs, il y a aussi dans les villes de Terrebonne, Repentigny, l'Assomption, des ménages locataires qui se sont trouvés sans logement le 1er juillet et qui l'étaient toujours aux dernières nouvelles. Et c'est sûr que dans les dernières années, il y a des locataires de Montréal qui allaient où c'était moins cher. Et là, on peut plus aller dans Parc Extension parce que le quartier se gentrifie à vitesse grand V. Les quartiers Montréal-Nord, il y a des taux d'inoccupation très, très bas. Donc, même les quartiers où c'était moins cher ne le sont plus et les quartiers populaires sont eux-mêmes victimes de la spéculation immobilière et de la gentrification. Par exemple, le sud-ouest, où des gens de Verdun qui habitent là depuis des années ont été carrément chassés cette année. Oui. Donc, et c'est sûr que là, les gens, certains locataires qui le pouvaient, qui étaient mobiles, se sont peut-être dans les dernières années déplacés hors de l'île de Montréal. Mais actuellement, quand on regarde les taux d'inoccupation, je ne dirais pas que c'est ce qui se passe parce que c'est aussi difficile à Sainte-Thérèse, à Terrebonne, à Repentigny qu'à Montréal. Quand on regarde le coût des loyers, l'explosion du coût des loyers, par exemple, à Terrebonne, ça a augmenté de plus de 10 % en un an. Donc, le problème, c'est même pas une solution pour les locataires actuellement, dans plusieurs cas, de chercher à se reloger hors de l'île.
Non, puis moi, je parlais de la Naudière, qui est vraiment la campagne, là, qui est plus, plus du tout d'un centre urbain, mais c'est la même chose. Ça veut dire que ce mouvement, l'étalement urbain prend une... C'était pas comme ça il y a 4 ans, là. Ça a pris une vitesse de fou. Ça augmente vraiment très rapidement et il y a de la surenchère. J'ai un de mes voisins qui a vendu sa maison, il avait affiché un prix, les gens se sont battus pour l'avoir, ils ont monté les prix, puis c'était littéralement comme un encan. Il lui a vendu au plus offrant, c'est tout.
Tout à fait. C'est la spéculation, puis c'est effectivement, ça se voit pas juste en milieu urbain, ça se voit en campagne, et ça a aussi des conséquences dans ces endroits-là. Hein. Les gens qui étaient locataires d'une maison dans un petit village et qui finalement ne peuvent plus se loger doivent souvent quitter leur milieu, eux autres aussi. Donc, souvent, on parle des quartiers populaires de Montréal, mais ce phénomène-là, finalement, existe aussi ailleurs, il faut se le rappeler. Effectivement.
Est-ce que vous croyez que on devrait peut-être mieux réguler les locations de type Airbnb?
Ben oui, on n'arrête pas de le répéter et on a espéré pendant un temps que l'interdiction temporaire durant la pandémie finisse par aboutir à une interdiction prolongée. Et ça a été majeur finalement cette année pour faire une différence et remettre sur le marché locatif ces logements-là. Malheureusement, ce n'est pas la voie que le gouvernement du Québec a choisie et c'est déplorable parce que ces logements-là loués sur Airbnb finalement nous échappent. On parlait aux dernières nouvelles, on était autour de 14 000 logements affichés sur Airbnb à Montréal. Donc c'est sûr que parmi ces logements-là, il y a des grands logements qui sont pratiquement inexistants à Montréal. Et si ces logements-là revenaient sur le marché régulier, ça permettrait d'atténuer cette crise-là. Par contre, c'est sûr qu'actuellement, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, les gens qui louaient sur Airbnb qui ont profité de l'interdiction temporaire pour les afficher sur des sites de petites annonces, mais à des prix exorbitants, des logements à 5,5 à 3 000 $ dans Rosemont, c'est bien évident que c'est pas la moyenne des locataires qui peuvent se payer ça. Donc, c'est sûr que si on veut faire une différence pour que ces logements-là reviennent disponibles pour les locataires, mais à un prix que les locataires sont capables de payer. Ça prend une interdiction claire et formelle pour que les gens qui profitent d'Airbnb sachent qu'il n'y a plus d'espoir de ce côté-là. C'est pas ce qui, ça n'a pas été le cas dans les dernières semaines parce qu'on voit que les gens ont continué d'espérer que ça revienne et plusieurs en profitent actuellement, bon, avec le tourisme dans les différentes régions, dans les différentes villes du Québec. Donc, c'est sûr qu'il faut interdire Airbnb et la réglementation actuelle, là, qui est entrée en vigueur le 1er mai, elle n'est pas suffisante, surtout que Québec n'a pas prévu les ressources pour la faire appliquer. Il n'y a pas, Revenu Québec l'a dit, il n'y a pas d'inspecteurs et d'inspectrices supplémentaires qui ont été prévus pour faire appliquer ce nouveau règlement-là. Alors, comment peut-on espérer avoir plus de mordants si on ne fait pas appliquer suffisamment le règlement? On suit ça de près, on verra ce que ça donnera, mais c'est sûr que...
Ça vient un règlement décoratif à un moment donné, là.
Ben, c'est sûr qu'un règlement pas appliqué, ça fait que plusieurs logements illégaux peuvent profiter de la situation. Et d'ailleurs, c'est tellement payant, hein, Airbnb, que plusieurs prennent des risques.
Il y a, je crois, même des compagnies qui font beaucoup de Airbnb. C'est pas nécessairement la personne à qui ça appartient. Elle a un pourcentage là-dessus, mais il y a des grosses corporations qui louent énormément de Airbnb.
Ah, ben tout à fait. On est très loin du fameux modèle supposément collaboratif. Là. À Montréal, par exemple, puis à Québec aussi, la proportion de logements qui sont loués par des multilocataires, c'est-à-dire des gens qui affichent plus d'un logement, c'est plus de 40 %. On est même presque à 45 %. Donc, c'est pas la majorité, mais une très grande proportion des logements qui sont affichés sur Airbnb sont affichés par des gens qui en font un peu leur pain et leur beurre.
Oui, des business.
Et ça revient à la marchandisation. Tout cet enjeu de la marchandisation du logement, autant des compagnies à numéros qui font des rénovictions puis qui se débarrassent des locataires pas payants, des grands spéculateurs, des grandes compagnies immobilières, des fonds d'investissement qui investissent là-dedans parce que c'est une business payante, mais c'est la même logique pour Airbnb. C'est la logique de faire du profit avec des logements, alors que ces logements-là, c'est un bien essentiel et même c'est un droit et que en faisant de la spéculation puis du profit sur ces logements, finalement, on fait en sorte que le droit au logement, lui, est une réalité de moins en moins respectée pour
un grand
nombre
de ménages. Non, si c'est une marchandise, c'est pas un droit, c'est clair.
Ben exact. Hein? Puis on dirait que même si les gouvernements se sont engagés à respecter le droit au logement, il y a de ça très longtemps, en ratifiant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ben on fait primer, finalement, les intérêts du marché privé, les intérêts des propriétaires sur ceux des locataires. Et c'est ce parti pris, finalement, qui est visible avec cette crise du logement, dont le nombre de ménages locataires sans logis n'est que la pointe de l'iceberg. Hein. C'est une illustration, c'est le symptôme de cette crise-là qui est beaucoup plus profonde, mais c'est le parti pris.
On pose la question jusqu'où ça peut on peut espérer que ça se calme, parce que ça semble sans limite. Si on pense à Vancouver, à Paris, à New York, dites-moi le principe, Madame Laflamme, c'est que j'aime beaucoup prendre des appels et puis gênez-vous pas de me couper si vous avez une réponse pour la dame, répondez vous-même, ça vous va?
Oui, ben, tout à fait.
OK, on a Claudette au bout du fil. Bonjour Claudette.
Oui, bonjour. C'est juste pour vous dire que le problème majeur, là, c'est les augmentations à chaque année. Les gens ont peur de contester et en plus de ça, contester, c'est un prix exorbitant pour aller à la régie, autour de 70 $. Et puis les gens ont peur de contester également. Alors moi, comme j'ai eu un 33 $ d'augmentation, il n'y a pas plus d'aménagement différent. Et puis j'ai contesté auprès du propriétaire, des propriétaires, mais c'est sûr qu'ils l'ont ajusté. Mais moi, je suis à la retraite. Puis l'augmentation des retraités n'est pas équivalent à l'augmentation de loyer. Alors, c'est difficile. Même les résidences de personnes âgées autonomes, c'est un abus épouvantable. Il devrait y avoir une réglementation là-dedans.
Oui, ça, je comprends très bien. Madame Laflamme?
Ben tout à fait. Encore là, cette logique-là de profit dans les résidences privées pour aînés, elle est flagrante, là. C'est une business, on profite du besoin de sécurité de certaines personnes pour demander des loyers exorbitants, là. Ça a pas de bon sens. Et effectivement, la question de la hausse des loyers, c'est vraiment central. Le prix des logements augmente de façon faramineuse. Et quand il y a pénurie, comme c'est le cas actuellement, ça augmente de façon encore plus importante. Par exemple, au Québec, ça a augmenté de plus de 5 % en un an, dans certaines villes beaucoup plus. Je parlais de Terrebonne tantôt, mais aussi Gatineau. Donc, il faut encadrer ça. Et il n'y a pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, de contrôle obligatoire des loyers au Québec. Donc, ça repose sur les épaules des locataires de refuser une hausse qui leur paraît abusive. Et ce fardeau-là, comme Madame l'illustre très bien, il est très lourd. Il y a plusieurs locataires qui ont peur de refuser, qui ont peur de faire valoir leurs droits parce que, dans certains cas, ben, ça va les mettre dans une situation où le propriétaire va être de mauvaise humeur et les gens ont peur d'entrer dans un conflit avec le propriétaire. D'autant plus quand il y a une pénurie comme celle qu'on connaît, les gens voient bien ce qui se passe et ils veulent pas finalement perdre leur logement. Alors, même si les locataires ont droit au maintien dans les lieux et qu'on a le droit de refuser une hausse abusive de loyer, plusieurs ne se prévalent pas de ces droits-là. Et pour renverser ce fardeau-là de la preuve, il faut instaurer un contrôle obligatoire des loyers au Québec et un registre des baux pour que les gens aient accès à l'information, parce que beaucoup de hausses abusives se produisent aussi au changement de locataire. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, le gouvernement du Québec se traîne aussi la patte, parce que les locataires, finalement, n'ont pas les moyens de défendre leurs droits et les loyers augmentent en flèche. Ce qui fait que les logements qui sont disponibles, qui ne sont pas occupés, qui redeviennent à louer, sont carrément exorbitants. Et c'est ce qui nous mène à une situation comme celle qu'on a aujourd'hui. Là. Les retraités, les personnes à petit salaire, les fameux travailleurs et travailleuses.
C'est toujours les gens les moins privilégiés qui sont frappés en premier dans n'importe quelle crise. On le sait. Madame Laflamme, je vais vous garder avec moi parce qu'on va aller à la pause, mais j'ai d'autres sujets, parce que tout ça va se tourner en itinérance à un moment donné. Et ça aussi, ça m'inquiète. Oh. Après la pause. Ah oui, je suis toujours avec Madame Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Et j'avais annoncé qu'après la pause, on parlerait d'itinérance un peu. Vous comprenez, l'itinérance dont moi je discute depuis une trentaine d'années, c'est autre chose. Mais là, de plus en plus, c'est des gens qui ont des jobs qui devraient théoriquement, si les loyers avaient des prix normaux, seraient capables de fonctionner. Ça existe beaucoup à Paris. Il y a des gens qui habitent en dessous des ponts avec toute leur famille, qui vont à l'école, qui vont travailler, mais quand ils reviennent, ils n'ont pas de maison. Ils se tiennent tout en dessous d'un pont, évidemment avec aucune possession, pas se faire voler. Et puis, ils n'ont pas le choix que de vivre dehors comme ça. Ça, c'est Paris. Nous autres, ici, là, on a tous parlé la semaine passée du camp sur la rue Notre-Dame, qui est un petit camp pour l'instant, mais où il y a beaucoup de cette nouvelle itinérance-là. Donc, des gens qui ne connaissaient pas l'itinérance avant, puis là, ça leur tombe dessus parce qu'ils peuvent simplement pas se loger. Et j'ai deux impressions. J'ai l'impression que, de un, ça va s'aggraver de mois en mois, et de deux, j'ai très, très peur de qu'est-ce qui va arriver dans les grands froids. Madame Laflamme.
Ben oui, puis ces camps-là, on en a vu aussi à Gatineau, hein, où le campement du Gétani a été démantelé à deux reprises déjà dans les dernières semaines. Donc, c'est
en plus, ils démantèlent les campements, OK.
Donc c'est sûr que la question de la hausse de l'itinérance nous préoccupe aussi. La pandémie a rendu un peu plus visible les enjeux de vivre dans la rue, mais c'est sûr que ça, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on dit que la crise du logement à Montréal et ailleurs.
Ah, ça c'est clair. Pardon, je m'excuse, Mme Laflamme. C'est très clair que ça fait longtemps que ça augmente. Mais évidemment, en tant que le COVID a servi de révélateur à beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses qu'on ne voyait pas, et la COVID a amené beaucoup d'horreurs que, évidemment, on ne niera pas, mais elle a amené aussi beaucoup de choses qu'on ne voyait pas ou de choses qu'on ne parlait pas assez qui, maintenant, nous sautent au visage. Alors, je suis content qu'on puisse en parler. Enfin, ça va peut-être rester dans nos têtes et dans nos émotions, parce que quand on croise un camp maintenant, ben, on dit que ça pourrait être nous.
Ben tout à fait. Puis de plusieurs villes où ces campements-là, à plus ou moins grande échelle, ont été vus. Je pense à Québec. Il y a des endroits où les ressources en itinérance n'arrêtent pas de lever le drapeau là pour dire qu'il y a une hausse de l'itinérance, les ressources sont débordées. Et c'est sûr que durant une pandémie, quand on est des ressources débordées puis que les ressources ne peuvent plus accueillir les gens, ben là, on a le problème en plein visage. Donc, c'est sûr que la question de la hausse de l'itinérance, c'est une des conséquences de la crise du logement. Plusieurs organismes l'ont mentionné dans les derniers mois à Montréal. Les gens qui ont des petits salaires ou des personnes qui ont un revenu de retraite ne peuvent plus payer les 3,5 qui sont pratiquement, dans certains cas, à 1 000 $ là. Et là, c'est quand ces logements-là sont disponibles. Donc, c'est sûr que la crise du logement risque d'aggraver le problème d'itinérance. Entre autres, parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des chambres. je pense, là, dans le sud-ouest encore récemment, là, où il y avait une maison de chambre à vendre, il y a des règlements qui ont été annoncés par certains arrondissements pour protéger les maisons de chambre, mais dans certains cas, c'est presque trop tard. Ces règlements-là ne sont pas encore adoptés. Et les gens qui habitent dans des quartiers qui sont maintenant très finalement en demande et qui font l'objet de spéculations, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple,
gentrifiés.
Villeray, Hochelaga, Maisonneuve, etc., ben, les gens se font chasser de leurs petits 3,5 qui n'étaient pas chers. Les logements qui étaient encore pas chers se font reprendre sous de faux prétextes. Par exemple,
il va falloir discuter des maisons de chambre aussi. Nous autres, on a et plusieurs maisons de désintoxication, par exemple, et le refuge, qui n'est pas une maison de désintoxication, qui est un abri. On est tous inquiets du nombre de jeunes qui manquent, qu'on voit d'habitude, qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans la rue. On a l'impression qu'on va les retrouver dans des maisons de chambre à 10 par chambre en train de se faire exploiter par un propriétaire qui essaye de faire le maximum d'argent. On va quand même prendre des appels. Madame Laflamme, vous pouvez répondre si vous voulez. On a Martin pour commencer. Salut, Martin.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va?
Oui, nous autres, ça va, là.
Oui. Hey, écoutez, je vous écoute parler. Puis bon, ça fait du sens, votre affaire, mais tu sais, Montréal, c'est encore une ville où c'est plusieurs propriétaires uniques qui ont des duplex. Et puis, il y a beaucoup de duplex autour des métros à Montréal. Et puis, il y a beaucoup de blocages qui viennent de la ville qui empêchent les propriétaires, par exemple, de bâtir un troisième étage. Et puis, on ne vaincra jamais le problème de crise de logement tant qu'on n'augmentera pas l'offre. Et puis, les propriétaires uniques, ils peuvent avoir les moyens. Ils ont déjà leur équité sur leur édifice pour pouvoir ajouter des logements. Mais il y a beaucoup de blocages à l'urbanisme à Montréal en ce qui concerne l'esthétique. Ça ne veut pas dire d'abandonner l'esthétique, mais ce n'est pas un illogisme que d'avoir un troisième étage sur un duplex.
Je comprends. Faut juste faire attention à ne pas confondre avec les grands blocs appartements. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera. Mais tu as raison, Martin. Quelqu'un qui a un duplex, par exemple, peut habiter, lui, en bas et il loue en haut. Puis là, depuis des années, ben, il a pas mal payé son hypothèque. Fait que c'est plus des profits. Fait qu'il dit ben, que ça vaudrait la peine d'avoir deux logements à louer au lieu de un. Puis il pourrait se construire un étage de plus. Je sais que sur le plateau, ça s'est fait un peu. Mais tu dis qu'il y a du blocage de la ville pour ça?
Bien, écoutez, pour ajouter un appartement, même si ben, on peut être à 500 mètres de métro, ça nous fera un espace de stationnement. Les carrés de terrain à Montréal, ils sont faits pour avoir un ou deux stationnements, mais en plus de ça, ça nous prend un espace vert. Fait qu'il y a toujours de quoi qui va limiter l'ajout d'un appartement, puis ça, on parle même pour aussi proche qu'à 500 mètres du métro. Alors, je veux dire, c'est puis les carrés de bois, les maisons à Montréal ont été faites dans les années 50, c'est des carrés de bois. Structurellement, ils sont capables de porter un troisième étage sans vraiment de problème. Alors, si vous voulez régler le problème de logement, en même temps, faciliter le transport en commun, il va falloir qu'on dérouille la ville, puis qu'on commence à permettre aux gens à rajouter un étage sur leur duplex. Ça, c'est un appart de 800 pieds carrés ou 1000 pieds carrés.
Ça, je vous comprends très bien, puis je comprends très bien aussi que tout ce qu'on parle là, en ce moment qui est en train de mettre le monde à la rue, on n'y arrivera sûrement pas avec une grosse solution. Ça va prendre un paquet de petites comme ce que vous suggérez. Merci beaucoup, Martin.
Attends, juste un instant.
Vas-y.
Je vais finir avec une chose. C'est jamais le gouvernement qui va réussir à fournir un logement à tout le monde. Il va falloir qu'on donne la chance aux petits propriétaires d'investir dans leur immeuble et de développer du logement. Donc, il va falloir que ça déroule. Puis, dans un sens, Projet Montréal contribue à la gentrification des quartiers en ne permettant pas aux petits propriétaires d'améliorer leur édifice.
Mais ça résume tout ce qu'on s'est dit. Je comprends bien, Martin. Merci beaucoup.
Ben, j'aurais quelque chose à dire là-dessus, moi, Dan.
Oui, allez-y, Mme Laflamme.
Ben, quand on dit que ce n'est pas le gouvernement qui va régler le problème, il faut faire attention quand même, là, parce qu'il faut se rappeler qu'actuellement, au Québec, 11% seulement du parc de logements locatifs est hors marché privé. C'est-à-dire qu'il y a quasiment, finalement, il y a une absence d'alternative au logement privé. Et ça fait partie du problème. Et en ce sens-là, oui, le gouvernement du Québec a un rôle majeur à jouer. On ne peut pas se fier sur le marché privé, sur les propriétaires privés, qu'ils soient petits ou grands, pour faire respecter un droit qui est un droit fondamental de se loger ou d'avoir une sécurité d'occupation à un prix qui respecte notre capacité de paiement. Et actuellement, ben la sécurité d'occupation, il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Les gens se font reprendre leur logement dans des quartiers en gentrification. Les gens sont victimes de différents stratagèmes, etc. Donc, il faut faire attention quand on dit là qu'on ne peut pas compter que sur le gouvernement. Malheureusement, les gouvernements se sont traînés la patte depuis des années, ce qui contribue au fait que seulement 11 % du parc de logement locatif et du logement social, soit sous forme de HLM, de coopérative ou d'organisme sans but lucratif d'habitation. Donc, selon nous, oui, le gouvernement doit en faire plus. Et on ne peut pas non compter...
Plus de logements sociaux, Mme Laflamme?
Bien, tout à fait. Et puis, il faut parce que les quand on regarde le prix là, qui est demandé actuellement par les propriétaires privés, c'est pas vrai que les locataires, qu'un grand nombre de locataires peuvent se payer ces logements-là. Et quand on regarde le nombre de ménages qui, au Québec, paient plus de la moitié de leurs revenus pour se loger, je vous rappelle que la norme, là, c'est 30 % mais on est actuellement avant la pandémie qui va avoir accentué le problème, là. Lors du dernier recensement, on avait 196 000 ménages locataires au Québec qui payaient plus que la moitié. Et là, si on regarde ceux qui payent plus de 80 % de leurs revenus pour se loger, là, ça, c'est des gens qui risquent de tomber dans l'itinérance au premier problème.
Mais oui, tu peux pas vivre avec 20 % de tes revenus, on le sait tous.
Pour non-paiement de loyer.
Madame Laflamme, on va quand même... Excusez-moi, Madame Laflamme, mais il faut prendre une petite pause. on va prendre... Vous êtes très passionnée, puis c'est très bien, j'en suis ravi. On va quand même prendre notre petite pause.
Allons-y.
En revenant, on va parler un petit peu du ministère des Affaires municipales et de l'habitation après la pause. J'ai quand même une petite question pour vous, Mme Laflamme. Je comprends tout, je comprends la surenchère, je comprends, etc., je comprends les grosses compagnies qui font beaucoup d'argent, mais j'imagine la personne ou le couple qui a fait suffisamment d'argent pour se payer, comme l'exemple le donnait de M. Martin qui nous a téléphoné tantôt, un logement, puis un autre qu'il loue. S'il loue son 3,5 à 1002, 1003, c'est très, très, très cher. Mais lui se sent un peu obligé de suivre le marché. Pourquoi il devrait... comment on peut lui demander, lui, de charger moins cher alors que c'est plus cher partout?
Ben, écoute, c'est une excellente question. Puis d'ailleurs, l'Institut de recherche socio-économique, l'IRIS, a publié une publication intéressante sur le sujet récemment là sur cette analyse-là du marché de l'immobilier puis la rentabilité du locatif. Parce qu'effectivement, avec la surenchère dans le prix de vente des immeubles, notamment des duplex, ben les gens qui achètent, ben finalement vont vouloir rentabiliser leur investissement et se retrouvent pris aussi dans cette spirale-là inflationniste. Donc, c'est sûr que il y a des gens qui se retrouvent à faire partie du problème, il faut le dire, mais qui ne sont pas nécessairement mal intentionnés au départ, mais qui, en voulant accéder à la propriété, décident d'acheter un duplex parce que c'est moins cher, c'est une maison unifamiliale, parce qu'ils veulent rester en ville.
Ben, c'est une technique. Les gens qui n'ont pas des immenses revenus pour s'acheter une grosse, grosse maison font très souvent ça, surtout quand ils sont plus jeunes. Ils s'achètent un endroit qu'ils vont occuper un étage et louer l'autre. Je comprends ça parfaitement. C'est une façon, justement, pour eux, d'adoucir les frais. Mais là, ce que je me demande, c'est comment on peut avoir un contrôle sur les frais. Comment on met fin à une inflation des prix locatifs comme ça?
Bien, ça, c'est une grande question. Parce que c'est ça, il y a des solutions à court terme qui ne régleront pas le problème de fond parce qu'on est déjà avancé dans la cherté du coût des logements. Quand on regarde les prix qui sont affichés pour les logements disponibles, ben ces prix-là vont pas redescendre. Donc, c'est sûr que on peut agir maintenant pour freiner.
Parce que la nature humaine, c'est d'essayer de faire un peu plus de sous. Je veux dire, tout le monde négocie, aimerait avoir une paye un peu plus haute, aimerait avoir moins de dépenses. Alors, si on loue, on voudrait payer moins cher. Si on est propriétaire, on voudrait louer un peu plus cher. Comment on casse une spirale inflationniste? C'est pas évident parce que là, c'est vraiment tout un mouvement de société qu'il faut coordonner avec, en même temps, plusieurs mesures. On parlait là du monsieur qui avait un deuxième loyer au-dessus de chez lui. On parlait du Airbnb. D'ailleurs, on a un appel. On a Joe au bout de la ligne. Gênez-vous pas pour répondre, Mme Laflamme, si vous voulez. Salut, Joe.
Salut, Dan. Bonjour, Mme Laflamme. Vous allez bien, les deux?
Très bien, toi?
Oui.
Bon, très, très bien. Je veux seulement vous dire une chose. Je fais du Airbnb, je fais également de la location. En fait, il m'est adonné de faire les deux dans ma vie comme propriétaire dans les deux. Lorsque moi, j'ai un problème avec la régie, ça me prend des mois à régler les problèmes lorsque j'ai un problème avec un locataire, OK? Et lorsque j'ai un problème avec quelqu'un de Airbnb, je suis assuré, je suis couvert, j'ai une réponse d'Airbnb dans les 24 heures, j'ai un service de cette compagnie-là. Maintenant, nous, on a un problème ici au Québec, là, présentement, où il n'y a pas assez de logements pour les gens. Il faut arrêter de légiférer, il faut arrêter, selon moi, de vouloir encore rajouter des lois et de restreindre le mouvement des propriétaires, que ce soit Airbnb ou que ce soit des propriétaires réguliers pour des locations régulières.
Mais ce que je comprends, c'est qu'évidemment, je vous comprends, là, vous prêchez un peu pour votre paroisse, là, je comprends que ça vous dérange, ça.
Non, mais
vous avez une solution, allez-y.
Oui, allez-y. Ma solution, c'est simple. De la même façon qu'on charge une taxe pour le tourisme, de la même façon qu'on charge une taxe pour le recyclage, on charge une taxe Airbnb pour le logement. On charge une taxe lorsque des loyers dépassent un certain seuil, encore là, pour loger. On a une responsabilité sociale, on vit en société. Alors, oui. Il s'agit de fonctionner avec... On s'entend que le marché fonctionne à l'argent, ben il faut taxer, il faut augmenter les taxes basées sur les dépenses qui se font. Que ce soit Airbnb, on charge un certain pourcentage, et que ce soit les loyers, ben, quand on dépasse un certain seuil pour tant de superficie, ben, on rajoute une petite taxe.
Très bien, Joe. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous êtes propriétaire d'un logement ou vous en avez comme 40 beaucoup puis c'est vraiment un gros investissement
pour
vous?
Non, je suis un petit propriétaire, mais j'essaie de contribuer par... Je suis témoin de ce que... Maintenant, oui, je suis pas dans les grands bons des propriétaires qui ont plein d'immeubles à Montréal, sauf que je me mets un peu dans la place puis je me dis, regarde, pourquoi que moi, je baisserais mes prix? Pourquoi que moi, je préfère de loin faire du Airbnb parce que, un, c'est plus payant. Deuxièmement, lorsque j'ai un problème, j'ai une réponse d'Airbnb dans les 24 heures. Alors que la régie du Québec, la régie du logement, vous savez comme moi comment que on s'en sort pas à un moment donné. Et d'ajouter encore des lois et d'interdire Airbnb, c'est encore d'interdire des moyens. Bon, présentement, ça marche pas, mais d'interdire encore, c'est encore de rajouter, de scléroser le système et d'ajouter encore des lois alors qu'il faut laisser quand même les business se faire. Puis il faut être capable d'augmenter le moyen de générer des revenus.
Okay, donc, on passe plus par une taxe plutôt que... je comprends. Madame Laflamme, qu'est-ce que vous pensez que son idée d'une taxe sur le Airbnb? Ben, ça semble pas un phénomène qu'on est capable de contrôler.
Ben là, maintenant, de toute façon, il va y avoir toute la question de l'hébergement. Les gens vont devoir afficher leur permis pour opérer. Mais moi, je pense qu'il faut faire davantage pour limiter Airbnb. C'est sûr qu'il faut faire contribuer le plus possible les gens qui font beaucoup d'argent en loi sur Airbnb. Mais moi, je continue à penser qu'il faut davantage d'encadrement du marché privé pour freiner la hausse du coût des loyers. Effectivement, la régie du logement, ça va pas toujours très vite. Il y a un projet de loi qui entre en vigueur là, sous peu, qui va changer le nom d'ailleurs de la régie du logement et qui visait notamment à diminuer les délais. Mais c'est sûr que le fond du problème, c'est que...
Mais là, Madame Laflamme, je ne sais pas si vous avez des inquiétudes de moi, mais je connais les beaux projets de loi qui ont l'air tout beaux. On s'aperçoit qu'ils sont esthétiques, ils ont changé le nom, ils ont changé la bâtisse, puis c'est les mêmes maudits problèmes. Après, je me pose la question.
C'est sûr que le problème de fond, même si ça va plus vite pour avoir une audience à la régie du logement, si les gens ne sont pas capables de payer... ils peuvent pas payer. Donc, même si les gens vont se font évincer pour non-paiement de loyer à la régie du logement, il n'y a pas d'alternative parce qu'on n'investit pas suffisamment dans le logement social. Et c'est ce qu'on répète, c'est que ça prend des alternatives pour les gens qui ne sont pas capables de payer ces logements-là sur le marché privé.
Je pense qu'on est d'accord là-dessus que beaucoup plus de logement social aiderait sûrement la situation. On a Robert. Salut, Robert.
C'est sûr, Mme Laflamme. Mais avant, j'ai un petit préambule.
Oui.
C'est concernant pour les logements. Là. Moi, j'ai eu un 5 logements, des 3,5, puis j'ai présentement un semi-commercial, il y a 5 locaux, privés et commercial.
Semi-commercial, vous voulez dire que la personne habite son commerce?
Non. C'est que il y a 3 logements locatifs privés,
oui.
Il y a deux commerces à l'intérieur.
Ah, OK.
C'est une bâtisse, on a un semi-commercial.
OK.
Le 5 logements, ça, les 5, 3 et demi, je l'ai vendu. Mais pourquoi que les logements, on augmente un peu les prix, ou je dis un peu, là, c'est que sur 5, il y en a toujours, il y en a toujours un qui ne paye pas. Fait que c'est ceux qui sont capables de payer qui payent pour les mauvais payeurs. Puis maintenant, ça, celui-là, je l'ai vendu, donc j'ai réglé mon problème, surtout avant la pandémie. Là, je suis avec un, comme dit mon semi-commercial, et j'ai eu une augmentation pour mes taxes, pour mes assurances, de 60 % qui représente 1 000 $.
Ils peuvent vous augmenter de 60 % comme ça?
Oui, oui, 60 %. Puis en n'importe quel cas, si vous voulez garder ça allé, je vais vous envoyer ma copie de police d'assurance.
Non, vous croyez sur parole. La seule affaire, c'est que vous avez beau magasiner auprès d'autres compagnies, ça serait la même hausse.
Alors, imaginez que je vais magasiner. Puis si je fais à une autre compagnie qui me donne, mettons, comme 300 $ de moins, là, il envoie les inspecteurs. Ça me coûte 1 000 pour réaménager mon immeuble parce qu'il y a des petites choses qui ne font pas leur affaire. Donc, je suis pris dans un carcan. J'ai payé le 60 % d'augmentation qui représente 1 000 $, là, puis je l'ai réparti sur les 5 logements. Donc, pour rester au même tarif que j'ai l'an passé à aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est sûr qu'il faut que j'augmente plus que pour 2 % mes locataires. Je ne fais pas plus. Là. C'est que la question que je pose à Mme Laplante, qu'est-ce que je fais si je ne peux, si peux pas augmenter mes logements plus que de 1,5 %?
Madame Laflamme? Madame Laflamme? Oui, bonjour.
Oui, écoutez, okay. On a des...
oui, ça vous...
On a une question de fond. Tu sais, il faut faire un choix à un moment donné entre est-ce que...
Parce que là, on ne parle pas d'un propriétaire qui surexploite dans un bloc et puis qui fait exprès jeter du monde à la rue. On a affaire à un monsieur qui loue ses affaires de façon honnête. Mais ça a l'air le sport national de garocher nos dépenses dans la cour de l'autre. Et puis là, ben là, c'est l'assurance qui lui lance à lui une augmentation de 1 000 $. De 60 % ça fait aucun bon sens. Il n'y a pas le choix de la payer. Mais là, c'est évident qu'il faut qu'il la recharge. Là, je me mets à sa place aussi. Là.
Oui, mais là, la question, ces factures-là sont prises en compte dans le calcul des hausses de loyer. Il faut dire que quand la régie publie une estimation moyenne de loyer, puis que les gens remplissent le formulaire de calcul, ces factures-là sont prises en compte dans les hausses de loyer qui vont être transférées effectivement aux locataires. Donc, oui, ça va donner une hausse de loyer plus importante, mais actuellement, il n'y a rien qui l'interdit, là. Alors, il n'y a absolument rien qui interdit ça actuellement. Donc, il faut faire attention. Même si on veut un contrôle obligatoire des loyers, il faut préciser qu'aujourd'hui même, quand les propriétaires calculent la hausse de loyer, ben, ils calculent, ils remplissent un
leur formulaire. Leur dépense, c'est compté et admis par la régie du loyer. On va juste prendre un autre petit appel. Éric?
Oui, bonjour.
Salut, Éric.
Ça va bien?
Très bien, et vous?
Oui, très bien, merci. Justement, pour le sujet du jour que je parlais avec votre chercheuse avant, moi, je suis maire d'une petite municipalité au centre du Québec. Et les gens qui ont un faible revenu, moi, j'ai de la difficulté à comprendre, la province de Québec n'est pas composée seulement que de Montréal et de Québec. On est des petites municipalités dans lesquelles on est en dévitalisation, des petites municipalités dans lesquelles on a des entreprises qui sont freinées dans leur développement économique parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. On cherche des gens, mais les gens veulent absolument rester dans la région métropolitaine. Je comprends, c'est très attrayant. Mais à un moment donné dans ta vie, quand tu es à faible revenu ou tu as 15 $ l'heure, 16 $ l'heure, ta qualité de vie va être beaucoup plus augmentée en région. Ça peut être une solution aussi. Puis on a besoin de ces gens-là, nous, en région. On a besoin de la vitalité économique. On a besoin de ces gens-là qui viennent s'installer chez nous. Et c'en est une solution. On n'a pas toujours de pensée de construire.
Mais c'est des... Oui, mais c'est... Ben, je pense que c'est un mélange un peu toutes les solutions. Juste à mon avis, très humble avis, là. Mais c'est déjà très en marche. Il y a des gens comme moi qui, par exemple, partent dans la Naudière. Mais moi, 1 h 15, je fais le trajet. Fait que je peux venir à Montréal souvent. Mais il y en a qui déménagent à Gaspé. Alors, à Gaspé, ça veut dire que tu changes toutes tes habitudes de vie, tu changes tes amis, tu n'auras plus les amis que tu avais, tu vas t'en faire des nouveaux. Et ça, ça fait partie de l'exode des gens qui sortent des grandes villes pour aller vers, ben là, vous êtes plus dans le centre du Québec, mais pour aller beaucoup plus loin et qui ne peuvent pas mélanger leur ancien style de vie avec le nouveau. Ils doivent changer. C'est un changement complet. Peut-être avec le télétravail, ça va se faire de plus en plus. Moi, je peux juste vous encourager là-dedans parce que c'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de monde. On le voit, si on peut plus se loger dans des villes comme Montréal, Québec, ou comme Mme Laflamme disait, Terrebonne ou Mascouche, ben c'est évident qu'on va se tasser toujours un petit peu plus loin. Merci beaucoup d'avoir appelé, Éric. Je vous rappelle que j'étais avec Véronique Laflamme, qui est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Merci beaucoup, Mme Laflamme, de vos lumières.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.